autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour explorer notre mémoire dans tous ses paradoxes. On la pense logiquement tournée vers le passé, nous allons chercher à comprendre pourquoi notre mémoire est aussi et d'abord peut-être orientée vers le futur. Quel est le rôle, quelles sont les fonctions de cette mémoire prospective? Comment cette mémoire du futur influence-t-elle nos prises de décision? Comment s'articule-t-elle avec nos souvenirs et comment la préserver pour notre avenir commun? Autant de questions soulevées par le neuropsychologue Francis Eustache, éminent spécialiste de la mémoire, dans un ouvrage collectif absolument passionnant, La mémoire au futur. C'est donc au futur antérieur que nous vous invitons en vous proposant de réécouter cette émission consacrée aux facettes les plus inattendues de la mémoire, la nôtre, mais aussi celle d'étranges animaux des profondeurs. Je vous laisse la surprise autour de la question « Pourquoi la mémoire est aussi orientée vers le futur ?» Bienvenue dans notre futur intérieur.
La mémoire, bien évidemment, nous permet de nous souvenir du passé, mais la mémoire nous permet également d'imaginer le futur. Alors le futur, c'est vraiment une dimension essentielle de notre expérience. Imaginez, vous réveillez un matin sans futur. Vous êtes incapable de vous projeter dans l'avenir et d'imaginer ce qui pourrait vous arriver dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Seriez-vous la même personne ? Comment allez-vous faire pour gérer votre vie? En fait, cette situation est difficilement imaginable tellement le futur fait partie de notre expérience et de notre vie quotidienne. En effet, si vous y pensez un instant, on passe énormément de temps à penser au futur. Donc nous allons imaginer toutes sortes d'événements qui pourraient se produire. Nous allons envisager différents moyens de faire face à ces événements, les planifier, de s'y préparer. Comment fait-on exactement pour se projeter dans le futur? La mémoire joue vraiment un rôle essentiel dans cette capacité.
Bonjour Francis Eustache.
Bonjour.
Vous avez reconnu votre collègue, si j'ose dire, chercheur à l'Université de Liège, Arnaud d'Archambault, qui fait donc partie de ces chercheurs de plus en plus nombreux à étudier la mémoire du futur, la mémoire au futur. C'est le titre de cet ouvrage collectif que vous venez donc de diriger aux éditions du Pommier. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez, Francis Eustache, à l'Université de Caen, l'unité de l'INSERM dédiée à l'étude de la mémoire humaine. Vous présidez le conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, ce qui vous a mené à travailler en lien avec des chercheurs de toutes disciplines sur cette question, historiens, neurobiologistes, philosophes, neurologues, spécialistes d'intelligence artificielle. Ils ont tous collaboré donc à ce nouvel essai sur la mémoire au futur. Ça paraît tout de même paradoxal, hein, même si on vient d'entendre Arnaud d'Argembault, Francis Eustache, ou en tout cas à l'encontre de toutes nos idées reçues. Mais la mémoire est en partie et presque peut-être essentiellement orientée vers le futur. C'est une drôle de découverte, ça.
Oui, a priori, la mémoire au futur, la mémoire du futur, ça semble paradoxal. Parce que quand on pense mémoire, on pense d'abord à... On se tourne vers le passé, on se tourne vers notre mémoire du passé. En fait, quand on y réfléchit un tout petit peu, ce n'est pas paradoxal. Comme le disait Arnaud d'Argembault tout de suite, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la journée qui vient, les jours qui viennent. Et on voit en fait que la mémoire, c'est un jeu avec le temps. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans le présent et en fonction de nos objectifs, de nos aspirations, en fonction aussi peut-être du contexte, de l'endroit où on se trouve, qui va aussi nous guider. Mmh. En fait, on se tourne vers le futur. On se tourne vers la préparation du futur. On va se projeter dans le futur. Mais le passé n'est jamais très loin, parce que le passé va alimenter cette projection dans le futur, va nous pousser en quelque sorte dans le futur. Donc, la mémoire, ce serait... un vecteur, une flèche, comme la flèche du temps, orientée vers le futur, mais avec des spirales, en quelque sorte, des retours en arrière incessants. C'est-à-dire que cette projection dans le futur fondamentale, hein, qui est essentielle, qui nous permet de nous projeter, d'imaginer, hein, le terme a été utilisé, on n'est pas très très loin de l'imagination, sauf que nous sommes impliqués dedans. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le présent mais on a la possibilité de se décentrer du présent pour partir dans un futur plausible.
Parce dans un que, futur plausible à partir de nos expériences passées, c'est
à
un
partir
peu ça.
De nos, bien entendu, en utilisant nos connaissances générales sur le monde, nos savoir-faire, ce que l'on sait de façon générale, et puis aussi nos souvenirs. Alors nos souvenirs récents, s'il s'est passé quelque chose d'important la veille, évidemment, ce qui s'est passé la veille va entrer dans nos préoccupations du moment, et tout ça va nous permettre de préparer le futur.
C'est quand même assez, un domaine de recherche assez récent, hein, cette mémoire au futur ou cette mémoire du futur. C'est quoi ? Ce sont des expériences d'imagerie ? C'est du travail sur des patients qui ont amené à cette réflexion-là ?
C'est toujours difficile de dater exactement quand on a commencé à travailler sur le sujet. Mais à mon sens, les premiers travaux scientifiques, réalisés par des scientifiques, datent de quelques décennies, c'est donc à la fin des années 2000, et les premiers travaux tangibles, ce sont des travaux avec les amnésiques. Les patients qui ont une grande amnésie, un grand syndrome amnésique.
Donc ils ne se rappellent plus du passé.
Alors ces patients ont par définition un trouble très important de la mémoire autobiographique, de leur mémoire du passé. Ça c'est connu depuis longtemps, c'est connu depuis le syndrome de Korsakoff depuis plus de 100 ans. Et c'est un grand chercheur d'origine estonienne qui travaille au Canada, qui s'appelle Endel Tölving, qui en fait a constaté quelque chose. C'est-à-dire que quand il discutait avec des patients, il y a notamment un patient qui est très célèbre, qui s'appelait Ken Cochrane, qui est aujourd'hui décédé, quand on lui demandait d'imaginer ce qu'allait se passer demain ou dans les jours qui venaient, mais en fait il disait « je peux pas, c'est blanc, c'est tout blanc, je peux pas faire ça ». Et en fait, il donnait un peu les mêmes réponses que quand on lui posait des questions sur son propre passé.
Quand alors, on ne peut pas se rappeler de son passé, on ne peut pas se projeter dans le futur.
Alors, c'est pas vrai de tous les amnésiques. Mais c'est pas vrai de tous les amnésiques. Il faut pas généraliser, mais c'est vrai de certains amnésiques.
Donc, et c'est ça qui a donc été cette piste de recherche qui est aujourd'hui un grand champ de recherche, mémoire du futur. Alors pour en savoir plus sur toutes ces questions, mémoire du futur, mémoire du passé, la Semaine de la mémoire va réunir à Montpellier des chercheurs de toutes disciplines qui travaillent sur la mémoire humaine bien sûr, mais aussi la mémoire animale. Bonjour Ludovic Dickel.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Caen. Vous êtes éthologue, professeur d'éthologie à l'Université de Caen. Vous dirigez le groupe Mémoire et plasticité comportementale et vous travaillez sur la mémoire des céphalopodes, des poulpes et des seiches. Eux aussi ont une mémoire. J'imagine que vous n'en êtes quand même pas à étudier leur mémoire au futur.
C'est un petit peu compliqué par rapport à d'aborder ces questions chez l'animal d'une façon générale. Alors juste une petite précision, le laboratoire a changé de nom maintenant, le nom s'est beaucoup simplifié, il s'appelle neuroéthologie cognitive des céphalopodes.
Neuroéthologie cognitive des céphalopodes.
Oui, c'est beaucoup plus simple.
Et vous étudiez la mémoire des céphalopodes. Hein.
Voilà, on travaille notamment sur la mémoire. Alors je suis très très on ne peut constater que l'aspect très éclairant, extrêmement séduisant de cette idée que la mémoire construit le futur chez l'humain. Et ça pose des questions qui sont absolument fondamentales chez l'animal, parce que on ne sait pas encore si on peut parler de mémoire du futur chez l'animal, a fortiori quand on s'adresse à des pieuvres, à des mollusques. Mais on essaie de se
coltiner ce genre de questions. En tout cas, vous essayez de comprendre à quoi sert la mémoire, on va y revenir, chez les céphalopodes, autour de la question pourquoi la mémoire est aussi orientée vers le futur. Je propose tout de suite quelques pistes de réponses particulièrement inspirées. Ce sont celles de Jean-Claude Van Damme et de Paul Le Poulpe, mixées façon Retour vers le futur par Hugo Violas.
Quand j'étais en Amérique, j'ai lancé l'hameçon en sachant, après des années, en me demandant à moi ce que j'étais, quelqu'un qui allait réussir. Alors quand je m'amenais dans un bureau à Los Angeles et je disais au mec, je suis une star, j'avais déjà reçu la réponse avant la question.
Paul le Poulpe parade fièrement, car Paul a encore eu raison hier soir. L'Allemagne a bien battu l'Uruguay. Sur 7 rencontres de l'Allemagne, Paul a fait 7 bons pronostics.
Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi.
On va arrêter le n'importe quoi autour de la question pourquoi la mémoire est aussi orientée vers le futur. Francis Eustache, quelle est la fonction finalement? À quoi ça sert cette mémoire du futur? On a bien compris quand même à se projeter dans le futur, mais est-ce qu'on comprend plus loin dans cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, La mémoire au futur? Catherine Thomas-Antérion nous dit qu'elle nous sert à nous souvenir de demain. Je trouve ça une formule extraordinaire.
Oui, alors il y a plusieurs fonctions. Il y a des fonctions qui paraissent relativement simples, mais qui sont très importantes. C'est anticiper nos actions. Ce que l'on doit faire dans le quotidien, y compris surveiller la penser à la casserole qui est sur le feu. Enfin, ça a l'air très simple, mais quand on ne sait plus faire ça, et malheureusement, des patients ne savent plus faire ça, et ça pose des problèmes pour...
Pour surveiller une casserole qui est sur le feu, il faut effectivement utiliser cette mémoire du futur. Alors, savoir qu'on va avoir ça à faire après.
On est dans des temps relativement courts, mais c'est essentiel. Se souvenir qu'il faut passer prendre le pain le soir en rentrant à la maison, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective, qui est une mémoire qu'on sollicite en permanence, qui est une mémoire fragile. Et puis, il y a la mémoire du futur qui va au-delà, qui, elle, nous permet d'imaginer des scénarios. Donc, c'est presque, on pourrait la comparer à des situations de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on imagine, mais en même temps, on ne prend pas de risques. On peut imaginer des tas de choses. Et on se prépare. Et en même temps, on fait fonctionner notre imagination, notre créativité. Et ça va nous permettre de prendre des décisions, des fois des décisions qui sont très créatives, qui nous permettent d'aller au-delà des sentiers battus. Donc c'est très très important. C'est quelque part, c'est notre discernement, c'est notre libre arbitre, c'est la façon dont il s'exprime.
Nos prises de décision, en fait.
Donc, vous voyez, cette mémoire du futur, elle va au-delà de la mémoire. C'est l'assise, en quelque sorte, d'un raisonnement et de grandes décisions que l'on va prendre au cours de notre vie, soit dans notre travail, mais de façon plus large, des décisions de citoyens, d'honnêtes hommes, j'ai envie de dire. Et donc, je reviens sur ce point, c'est une mémoire qui s'appuie sur nos connaissances, sur
nos expériences,
la synthèse que l'on fait de nous-mêmes dans le monde, et c'est l'extension peut-être la plus merveilleuse de notre construction mentale. La mémoire, c'est ce monde mental que l'on construit au fil du temps.
Qui fait notre identité.
C'est la synthèse que l'on parvient à faire, que l'on actualise au fil du temps. Et la mémoire du futur, c'est certainement l'aspect le plus élaboré de cela. Et en même temps, peut-être aussi le plus fragile, ce que tentent à nous montrer les études des patients amnésiques.
On va y revenir autour de la question pourquoi la mémoire se conjugue aussi au futur. Et pour se rappeler du futur, on écoute les Backpack Jacks sur RFI, Remembering the Future. Last time that you travel back here, wish you could relive how you got here. Remember that day, how it all played out. Choices you made without knowing why. Something stronger than your instincts whispered a message made your mind spin. Could it all be true? Time traveling, figure out a way to place the pieces on the map. And if you really wanna know, then I can show you the way.
Babbling or rambling, politics are over now, knowledge is for questioning. Most cats don't listen to themselves. Well, if your mind is deaf, time to take it off the shelf. Indeed, and fate is such a funny way of showing you the future through yesterday. Dreams are so vivid when you feed them. Let inspiration be, you better learn to be between them. And if you really wanna know, then I can show you the way. Shine with golden stars. Something is up for sure. Feel the wind, the change, whirling at the door. Burning.
Remember the Future, duo de choc venu d'Irak et de Cuba, mais duo de choc nantais qui s'appelle Backpack Jacks sur RFI. Remembering the Future, autour de la question pourquoi la mémoire est aussi orientée vers le futur et pourquoi c'est essentiel pour nous, pour notre cerveau, de pouvoir se projeter à partir du passé dans le futur. Nouvelle question pour vous, Francis Eustache, soulevée par un autre spécialiste du cerveau, le professeur Stanislas Dehaene, qui était ici même notre invité.
Alors Francis, bonjour. J'ai une question ou peut-être une suggestion pour toi. Dans mon livre sur apprendre, je parle beaucoup de cette période de sommeil. Et il y a de nouvelles théories qui sont en train d'émerger, notamment de chercheurs à MIT, de Josh Tenenbaum, selon lesquelles, pendant le sommeil, on fait déjà tourner une sorte de mémoire du futur. En tout cas, on fait tourner dans sa tête ce qu'on appelle un modèle génératif. C'est-à-dire qu'on essaye, notre cerveau explore différentes possibilités. Il se sert évidemment des modèle qu'il a appris pendant la journée pour simuler le monde extérieur. C'est extraordinaire de penser que tous nos rêves sont issus des modèles de notre propre cerveau. Mais donc il y a cette idée que pendant le sommeil, on va tenter d'anticiper sur ce qui va pouvoir se passer dans les jours ou dans les mois qui viennent. Notre cerveau fait tourner des simulations qui sont orientées vers des situations qui pourraient nous arriver, qui ne sont jamais arrivées, et ça nous permet d'anticiper et peut-être le jour venu d'être prêt. Parce que notre cerveau a déjà appris quelque part à réagir à des situations du futur. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Francis Eustache, de cette mémoire au futur à l'œuvre dans le sommeil, donc ?
C'est une belle idée. Le lien entre la mémoire et le sommeil, c'est un lien extrêmement fort. C'est le premier point qu'il faut vraiment retenir. On a besoin d'un sommeil de qualité pour avoir une mémoire qui fonctionne bien. Et il faut vraiment retenir ça et penser aussi aux enfants, aux adolescents qui ont des fois un sommeil un peu malmené. Il faut faire très attention à ça.
Pour la mémoire, en fait.
Et la mémoire de façon générale. C'est le sommeil, c'est le moment où on va consolider ce qui s'est fait la veille, ce que l'on a vécu les jours précédents. Puis après, il y a le rêve, la fonction du rêve. Donc c'est extrêmement difficile à étudier parce qu'on a un accès indirect au rêve. On ne peut pas l'étudier directement. Mais c'est sûr que le rêve, c'est un moment où le cerveau fonctionne différemment. Il y a beaucoup moins d'inhibition, donc il y a beaucoup plus de créativité. Et vraisemblablement que ce rêve, il sert en partie à ça. À explorer des possibles ou des impossibles.
Explorer des possibles ou des impossibles, voilà. Pendant le rêve, jolie idée. Et précisément, autour de cette question du rêve, nous avions reçu une chercheuse que vous connaissez bien, qui travaille à l'INSERM à Lyon, Perrine Ruby, une des rares chercheuses à essayer de travailler de manière neuroscientifique sur nos rêves. Elle a aussi une question pour vous, on l'écoute.
C'est une question qui n'a pas de réponse actuellement, mais moi je serais très heureuse d'avoir... l'avis de Francis sur la question de est-ce qu'il pense qu'il y a un système de mémoire séparé pour ce qu'on vit à l'éveil et ce qu'on vit au cours de la nuit ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait deux systèmes séparés parce que j'ai l'impression qu'on se trompe pas, ou très peu, ou moins que ce qu'on pourrait, entre un souvenir de rêve et un souvenir de quelque chose qu'on aurait vécu à l'éveil. J'ai l'impression qu'il y a une propension à l'oubli du rêve qui est bien plus importante qu'à l'oubli de ce qu'on a vécu. Et du coup, dans les dernières années de mes recherches, cette question a commencé à émerger de manière de plus en plus intense. Et du coup, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de Francis sur, selon lui, est-ce que ça lui semble une bonne idée qu'il puisse y avoir deux systèmes de mémoire différents pour la vie éveillée et pour le rêve ?
Vous avez une réponse, Francis Eustache ?
Je remercie Perrine de me poser une question pour laquelle il n'y a pas de réponse. Et je ne sais pas s'il faut multiplier les systèmes. On ne résout pas forcément les problèmes en multipliant les systèmes. Par contre, je pense qu'il y a des moments physiologiques qui sont très importants pour la mémoire. Bon, il y a bien sûr la veille avec une attention qui doit être focalisée sur les informations. Ça, c'est très important.
Quand on est éveillé.
Quand on est éveillé. Donc, il faut pouvoir se concentrer. Il faut faire un encodage profond. Donc, ça, on connaît bien ça. Et puis, il y a d'autres moments. Alors, le sommeil est un moment extrêmement important pour consolider les informations, pour imaginer des scénarios, même si on n'est pas conscient, on n'a pas le même niveau de conscience que pendant la veille. Puis il y a d'autres moments qui sont des moments de repos, on les appelle comme ça parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur nom, où cette fois-ci on est éveillé, mais on laisse aller ses pensées, on a une certaine liberté avec ses pensées. On n'est pas en prise directe avec notre environnement extérieur, on n'est pas en situation stimulus-réponse, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de répondre. Et ce moment-là est aussi très important.
Pour la mémoire.
Pour la mémoire, et notamment pour la mémoire du futur, pour cette capacité à partir dans des pensées, à imaginer, partir dans nos pensées, notre mémoire autobiographique aussi, mais surtout pouvoir imaginer le futur.
C'est étonnant, ce que j'entends aussi, enfin c'est la manière dont on fonctionne, hein, c'est que notre cerveau, pour innover, il a besoin de s'appuyer sur ce qu'on sait, ce qu'on a déjà vécu, mais il a besoin aussi d'espèces d'espace pour imaginer autre chose et pour inventer autre chose, c'est ça ?
Il a besoin d'espace et de temps. La mémoire, j'ai envie de dire les deux maîtres mots, c'est l'espace. Il faut pouvoir se représenter un espace, on a besoin d'espace. Et notre cerveau doit être capable de gérer l'espace et doit continuer à pouvoir gérer l'espace. Ce qui est peut-être un problème aujourd'hui d'ailleurs.
C'est-à-dire l'espace, un temps ou un espace qui soit où il n'y a rien.
Ce que Albax, Maurice Albax, le sociologue, appelait les cadres sociaux de la mémoire. On a besoin d'un cadre social pour que notre mémoire fonctionne. Alors cadre social, c'est un terme extrêmement vaste. Mais notre mémoire, elle n'est pas totalement abstraite. Il faut qu'elle puisse s'appuyer sur ce contexte spatial et qu'elle puisse jouer avec le temps. Jouer avec le temps, c'est-à-dire on est dans le présent, on a une situation présente, je me lève le matin ou je dois aller à tel endroit, etc. Donc je suis dans le présent, j'ai un objectif. Cet objectif, il me pousse vers le futur. Le futur, je dois faire des choix en permanence. Et ces choix, ils sont alimentés par mes connaissances générales et par mes souvenirs. La mémoire, c'est ça. C'est comment je me situe dans le temps et dans l'espace, dans un monde que j'essaie de comprendre.
C'est extrêmement complexe. Ludovic Dickel, vous êtes toujours avec nous et vous travaillez sur la mémoire des céphalopodes, des poulpes et des seiches. Est-ce que, dans ce que vous arrivez à étudier sur la mémoire, hein, puisqu'elles ont une mémoire, les seiches, vous arrivez à retrouver certaines des choses dont on vient de parler Francis Eustache ?
Mais il y a quelque chose dans ce dont parle Francis Eustache qui est extrêmement important, c'est le langage.
Ah oui.
Donc tout passe par des mots, hein, quand on étudie ça, et quand on travaille sur l'animal, c'est un petit peu plus compliqué.
Comme vous faites avec les poulpes et les seiches, oui, elles parlent pas beaucoup, hein, pour raconter leurs souvenirs.
Il y a des choses dont Francis Eustache a parlé, qu'on arrive à mettre en évidence, les capacités d'anticipation, par exemple. On sait que même chez les mollusques, mais chez beaucoup d'animaux, hein, les apprentissages servent essentiellement aux animaux à anticiper des modifications de leur environnement. Donc ça, les pieuvres, les seiches ont des capacités d'anticipation.
C'est-à-dire qu'elles ont l'anticipation, si on a bien compris, c'est qu'il faut bien avoir des souvenirs de ce qui va se passer. Donc il y a donc une mémoire, c'est ça, hein ?
Voilà. Donc vous avez besoin d'apprendre, par exemple, les caractéristiques d'une proie, et par exemple, ses capacités de fuite, pour élaborer une stratégie. Pour élaborer une stratégie qui est adaptée lorsque vous êtes confronté à ce type de proie. Donc forcément, vous faites appel à vos souvenirs pour élaborer la stratégie la plus efficace. Donc dans la prise de décision, ce sont des choses qui sont directement en relation avec ce qu'on observe chez l'animal aussi. Élaboration de stratégie, anticipation, tout ça sont des choses dont on sait qu'elles existent chez nos mollusques.
Mais elles existent du coup, enfin une question, vous n'avez sûrement pas de réponse, mais sous quelle forme elles existent ? C'est ça qu'on se demande, puisque nous on voit bien que c'est avec nos mots, notre mémoire, nos souvenirs, c'est lié au langage. Sous quelle forme ça peut exister, des images, des flashs, enfin, est-ce que vous en avez une idée ?
Dans ce qui vient à l'esprit par rapport à ce que disait Francis tout à l'heure, c'est il a parlé de forme de conscience de soi. Il faut que la personne ait une sorte de conscience du fait qu'il soit une entité un peu qui est persistante dans le temps pour ancrer ses souvenirs. Et ça, on ne sait pas du tout quelle forme de conscience de soi les animaux ou la pieuvre en particulier ça on ne sait pas. Les capacités d'imagination, ça on ne sait pas non plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions sur la façon dont l'animal se représente le temps, l'espace et lui-même.
Mais on se doute bien qu'il y a une forme de représentation, puisqu'il y a une forme de mémoire.
C'est difficile à dire. Il y a deux écoles. Il y a une école qui va penser que oui, il y a des représentations qui ressemblent à celles qu'on va trouver chez l'humain, mais en simplifié. Et puis il y a une autre école qui dit, à partir du moment où tu observes quelque chose chez un animal, que tu lui apprends quelque chose, qu'il prend une décision, et que à partir du moment où tu peux programmer un ordinateur à faire la même chose, ça veut dire que l'animal ne possède pas, il n'est pas montré que l'animal a une forme d'état mental. C'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. Donc il y a ces deux écoles-là hein, qui cohabitent.
Encore une autre question que j'aurais envie de vous poser, puisque Francis Eustache, dans une autre émission sur la mémoire, ici même, vous avez beaucoup parlé de l'oubli, puisque l'oubli est indispensable à la mémoire. Vous pensez que vos céphalopodes, vos sèches et vos poulpes, Ludovic Dickel, ils oublient ce qui n'est pas utile ?
Quand elles sont petites, je pense que, et Francis Eustache doit le savoir, parce qu'il était dans mon jury quand j'ai exposé ce travail-là, mais il me semble que de temps en temps, il peut être utile pour elles de ne pas se rappeler de certaines choses. J'avais montré il y a très longtemps, il y a quelques temps de ça, que les petites sèches sont incapables de mémoire à court terme ou à moyen terme. Et je pense que ça peut être avantageux, parce que quand elles sont petites, elles peuvent être confrontées à des proies qui les blessent quand elles sont petites, mais qui leur serviront de nourriture plus tard.
Ah, donc ça, elles n'ont pas besoin de le retenir.
Voilà, le fait que la mémoire soit bloquée à ce moment-là, ça peut être très utile pour elles.
Autour de la question de la mémoire du futur, la mémoire du passé, la mémoire qui est aussi l'oubli, on n'est pas à un paradoxe près autour de tous ces trucs inutiles qu'on a dans la tête. C'est François Morel qui nous enchante sur RFI.
Date de naissance d'Adamo,
1er novembre 43.
Le nom du chien de Belmondo,
Pini.
La taille du général de Gaulle,
1m87.
Le plat préféré d'Helmut Kohl,
le rôti de bœuf mariné.
Le nom de mon ancien collège,
Sainte-Marie-la-Flaire.
Les sous-préfectures de l'arrière,
Saint-Girons-Pamiers.
La pointure de ma tante Gisèle,
elle fait du 47.
La densité de la Rochelle,
2700 habitants
km². Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau, toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots, pourquoi ils restent là? Pourquoi ils s'en vont pas? Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place, et la place de quoi? La date de la mort de Guy Lux,
13 juin 2003.
Le PIB du Benelux,
28 milliards d'euros.
Le nom civil de Barbara,
Monique Sert.
Le prix Goncourt en 63.
Quand la mer se retire d'Armand Lanouet, je l'ai pas lu.
Le nom des habitants de Meaux,
les Meldois.
Et le poids moyen d'un cerveau,
1,4 kg.
La dernière adresse de Topor,
38 rue du Faubourg Poissonnier.
Et les derniers mots d'Edgar Faure.
L'immobilisme est en marche et rien ne peut l'arrêter.
Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau, toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots, pourquoi ils restent là? Pourquoi ils s'en vont pas? Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place, et la place de quoi?
Tous ces trucs inutiles, François Morel sur RFI. Vous voulez réagir, Francis Eustache, à tout ce qui occupe notre mémoire et qui justement l'empêche peut-être de devenir la mémoire du futur.
Les trucs inutiles, c'est vrai que c'est un peu fascinant. C'est vrai qu'on conserve des choses, on comprend pas bien pourquoi on garde des choses qui paraissent futiles comme ça, mais.
Pourtant, c'est comme ça aussi qu'on fonctionne. Autour de la question, pourquoi la mémoire se conjugue aussi au futur? Nous sommes donc en duplex avec l'éthologue Ludovic Dickel, qui étudie la mémoire des poulpes et des sèches, et en direct et en studio avec vous, Francis Eustache, qui venait de publier La mémoire au futur. Alors, une mémoire qui est aussi particulièrement utile, là où elle fait parfois le plus défaut, c'est-à-dire dans les états dépressifs.
Oui, en fait, cette mémoire du futur, elle est fragile, et on s'aperçoit qu'elle est... Elle est moins efficiente, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est moins efficiente dans beaucoup de maladies neuropsychiatriques, de façon générale. C'est-à-dire que notre mémoire, elle a besoin d'être aidée, d'être contrôlée, Et dans certaines maladies, ces mécanismes de contrôle qui travaillent avec la mémoire sont moins efficaces. Alors c'est vrai dans la dépression, c'est vrai dans les obsessions. Les obsessions vont nous empêcher en fait de nous projeter dans le futur, parce qu'on va être amené à un présent incessant. Dans le trouble de stress post-traumatique, où le patient est envahi par des images qui vont aussi l'empêcher de se projeter dans le futur. Alors il y a maintenant des formes de psychothérapie, et notamment ça a été fait dans la dépression, mais dans d'autres pathologies aussi, qui permettent aux patients de reconstruire une ligne du temps, et notamment une projection vers le futur, avec des résultats assez intéressants.
De l'importance de toutes ces mémoires, de l'importance de pouvoir se projeter dans le futur pour notre mémoire individuelle, voire aussi pour notre mémoire collective. Vous travaillez beaucoup avec des historiens, avec des philosophes, avec des chercheurs en sciences humaines. Autour de la question pourquoi la mémoire se conjugue aussi au futur, je vous soumets, Francis Eustache, une nouvelle question soulevée par Arianna Cecconi. Elle est anthropologue basée à Marseille. Elle travaille des deux côtés ou de tous les côtés de la Méditerranée sur l'imaginaire, sur les rêves. On y revient. Elle recueille en ce moment même les rêves des habitants des quartiers nord de Marseille. Écoutez sa question. Elle est pour vous deux, Francis Eustache et Ludovic Dickel.
Moi, j'aurais une question à propos de la mémoire transgénérationnelle. Il y a plusieurs cultures qui considèrent la mémoire comme quelque chose qui peut se transmettre, par exemple, par des fluides ou par des autres formes qu'est la parole. Et je voudrais savoir son avis sur la question de est-ce qu'on peut transmettre des choses et comment dans les générations.
Comment se transmet la mémoire, Francis Eustache ? Parce que dans la mémoire du futur, comment elle peut passer collectivement, peut-être une génération à l'autre ? Il y a des choses qui passent de l'ordre de la mémoire.
Alors, la mémoire, elle passe d'une génération à l'autre. La mémoire, des fois, elle saute une génération, assez fréquemment, dans les mémoires les plus difficiles, les mémoires traumatiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un passage d'une génération à l'autre, mais la chercheuse là parle d'un fluide, et en tout cas c'est pas forcément une mémoire qui est totalement exprimée avec les mots, mais elle est exprimée autrement.
Et elle peut sauter une génération, elle peut passer d'une grand-mère à son petit enfant, petit-fils ou petite-fille.
Ça c'est vrai dans les mémoires difficiles, les choses qui sont difficiles à dire, les expériences traumatiques, les personnes qui ont vécu des moments terribles, je pense bien sûr aux camps de concentration, aux guerres, et les personnes ne peuvent pas parler de ça parce que c'est trop douloureux, c'est trop moche et on n'a pas envie de parler de ça à ses enfants, donc il y a une sorte de chape de plomb qui s'instaure, et puis le temps passe. C'est aussi cela qui passe pour les personnes qui ont vécu ces moments, et à un moment donné de leur vie, plusieurs décennies, c'est souvent 50 ans après, 50 ans, peut-être parfois encore plus, là il faut reconstruire le récit et il faut le transmettre, et c'est les petits-enfants qui sont peut-être pas complètement naïfs, mais un petit peu plus naïfs que les enfants, qui posent les questions, et ce sont eux qui ont les réponses. Et c'est souvent un mode de transmission qui est très important, et où les enfants, en fait, apprennent par les petits-enfants l'histoire de leurs parents.
Mais là, la transmission se fait par les mots, par le langage.
Dans ce cas, elle se fait par les mots. Hein. Dans ce cas, elle se fait par les mots. C'est vrai que la transmission directe, elle peut se faire aussi par les mots, mais elle se fait aussi par les attitudes, par les comportements, par d'autres vecteurs qui ne sont pas le vecteur du langage.
Alors, puisqu'il y a d'autres vecteurs que le vecteur du langage, Ludovic Dickel, j'ai envie de revenir vers vous et vers la mémoire des céphalopodes. Est-ce qu'il y a des transmissions de mémoire chez les sèches, chez les poulpes ?
On a longtemps pensé que non, parce que ce sont des espèces qui ne s'émêlent pas. C'est-à-dire qu'elles ne se reproduisent qu'une seule fois. Et lorsque les petits naissent, les parents meurent. Donc, par définition, il n'y a pas de transmission culturelle des comportements. Mais quand on y réfléchit, et on y a réfléchi il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que finalement, quand la femelle des sèches, par exemple, ou des pieuvres, choisit un endroit où elle va pondre, elle va utiliser toute l'expérience qu'elle a acquise pendant toute sa vie pour aller choisir le meilleur endroit pour pondre ses œufs. Donc, elle transmet, par ses connaissances, elle transmet à ses petits une certaine forme de culture. Et certains spécialistes pense qu'il y a des céphalopodes, donc des sèches, des pieuvres, qui vont aller pondre aux endroits, des femelles qui vont aller pondre aux endroits où elles sont nées.
Donc, vraie transmission, là, à ce moment-là. Est-ce que Francis Eustache, les recherches de Ludovic Dickel sur les céphalopodes, sur la mémoire de ces animaux qui nous semblent si loin, est-ce que ça intéresse, est-ce que ça nourrit vos propres études, réflexions et recherches sur la mémoire humaine ?
Alors, moi, j'ai fait des études de psychologie et de psychophysiologie, et c'est un domaine qui m'a toujours passionné. La mémoire, elle est son objet. C'est un objet d'étude transdisciplinaire. On a besoin des neuroscientifiques, des personnes qui travaillent chez l'animal. On a besoin des sciences humaines et sociales. On a besoin de toutes ces compétences pour essayer de comprendre. Et l'approche de l'éthologie est extrêmement riche. Donc on a besoin de ça. Puis on a besoin de ça aussi sur un plan purement intellectuel. Je pense que c'est très important de comprendre notre place dans le monde, y compris en réfléchissant sur la mémoire des différentes espèces animales, y compris des poulpes et des sèches que je respecte éminemment.
Autour de la question pourquoi notre mémoire à tous se conjugue autant au futur qu'au passé, on écoute Aurel San, tiens, et lui aussi de Caen, comme vous deux, Francis et Ludovic, qui s'écrit au passé, ou plutôt au futur antérieur, un truc pour plus tard, avec les voix d'IBI sur RFI.
J'avais ton âge, y'a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y'a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute, j'ai pris quelques notes. T'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté.
Un truc pour plus tard, Aurel San, sur RFI, qui s'écrit à lui-même au passé, au futur antérieur, quand il était petit. Francis Eustache, vous qui êtes spécialiste de la mémoire, vous réagissez à cette proposition musicale d'un autre habitant de Caen, originaire de Caen.
Comme quoi, en fait, cette mémoire du futur, elle est quand même dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à penser la mémoire au passé. Peut-être que la littérature nous a orientés beaucoup, les films nous ont beaucoup orientés vers cette mémoire synonyme de passé, mais en fait, assez naturellement, ce qui nous préoccupe, sauf peut-être dans des moments particuliers de rupture existentielle, de deuil, où là on est très porté vers notre passé, retrouver les gens du passé, des moments du passé, mais de façon plus générale, ce qui nous importe, c'est de construire quelque chose et de construire au mieux ce quelque chose. Et donc se tourner vers le futur, c'est le vecteur de notre vie.
Et aujourd'hui, se tourner vers le futur, en tout cas cette mémoire du futur, ça nous pose des questions. On se demande même, en tout cas le philosophe Bernard Stiegler, notamment dans cet essai sur la mémoire au futur, se demande si on n'est pas en train de la perdre, cette mémoire au futur. Quel futur, justement, pour notre mémoire individuelle et collective, à l'heure où on externalise toutes nos mémoires, à l'heure des fake news aussi. C'est tout le propos de la question soulevée par un autre chercheur en neurosciences et en intelligence artificielle, Jean-Louis de Salle, on l'écoute.
On peut se demander ce que deviendra la mémoire historique dans un futur que j'espère lointain, dans un futur où il sera possible de fabriquer des fausses histoires. Actuellement, on est capable de faire de faux documents historiques. Mais bon, les spécialistes pourront encore dire lesquels sont vrais, lesquels sont faux, mais sans doute, j'ai envie de dire presque certainement, arrivera un moment où on ne pourra plus discerner le vrai du faux. Et l'histoire à laquelle on croit, ça sera de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire que le révisionnisme, au sens large, sera la règle. Il n'y aura que des révisionnistes. Chacun aura sa chapelle. Donc, il arrivera un jour où le mot même d'histoire sera presque synonyme de croyance, voire de secte. Et donc, je pense que je ne vivrai pas cette époque. Mais le devoir de mémoire, dans ce cas-là, bon, il faut s'empresser d'essayer d'imaginer un moyen d'écrire cette mémoire dans un support indiscutable, s'il existe. Je ne suis pas certain qu'il existe.
Quel futur pour notre mémoire, Francis Eustache? Beaucoup de questions se posent aujourd'hui, à l'ère des fake news, du numérique, sur justement notre mémoire au futur. Comment la préserver?
Alors, ce qui vient d'être évoqué là, c'est le problème des rumeurs, de façon générale. Et des rumeurs dans une information extrêmement diffuse, extrêmement nombreuse. En fait, notre cerveau est très fort pour retenir les informations. Il est beaucoup moins efficient pour retenir la source de ces informations. Mmh. Donc si on est envahi de beaucoup, beaucoup d'informations, et y compris des rumeurs, quoi, des fausses nouvelles...
On va tout retenir en bloc.
On retient en bloc. Et notre cerveau a beaucoup de mal, in fine, à faire les bons choix entre les sources de qualité, c'est-à-dire des informations qu'on a apprises sur un site d'une université ou d'un grand journal sérieux qui vérifie ses sources, ou au contraire de sources qui sont de moins bonne qualité.
Il ne fait pas le tri sur les sources, on emmagasine toutes les informations.
Notre cerveau, il a une puissance, il a cette puissance, mais il a en même temps cette fragilité d'avoir cette difficulté à récupérer la source de l'information. D'ailleurs, on s'en rend compte assez souvent, on dit je sais
mais
ça,
je sais plus où je l'ai mais lu, je ne sais plus où je l'ai vu.
C'est une bonne façon de réfléchir à ce point-là. Donc effectivement, je pense qu'on a une responsabilité individuelle, puis il y a une responsabilité collective autour
de ça. Pour préserver notre mémoire et notre mémoire au futur, dans le futur, pour les jeunes notamment. Enfin, vous consacrez plusieurs chapitres à ce sujet sans être passéiste, sans être pessimiste. C'est vraiment des questions qui se posent aujourd'hui. Comment préserver, protéger notre mémoire aujourd'hui pour demain et notre mémoire au futur?
Voilà, sur un plan plus de la mémoire individuelle, si on peut séparer la mémoire collective et la mémoire individuelle, ce qui n'est pas toujours évident, bien entendu. Et le chapitre de Bernard Stiegler est assez efficace, j'ai envie de dire, parce qu'il a le mérite de poser de la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses, alors le numérique nous apporte beaucoup, l'intelligence artificielle nous apporte beaucoup, elle nous permet d'avoir accès à des connaissances et c'est formidable. Et c'est un moyen d'accès à la connaissance qui est formidable et qui est partagé par beaucoup, donc tant mieux, il faut le redire. Mais en même temps, cette profusion d'informations peut nuire à la mémoire. Elle peut nuire à la mémoire, c'est une question assez complexe parce qu'il n'y a pas que les aspects techniques, bien entendu, il n'y a pas que les écrans, il n'y a pas que le problème des écrans, du contenu, de ce qui se cache derrière les écrans, mais il y a des problèmes aussi sociaux, c'est comment on va utiliser ces informations-là, comment les jeunes vont les utiliser. C'est bien sûr l'excès d'utilisation qui est un problème, c'est pas l'utilisation par elle-même. Et donc, on se trouve dans une situation où on pense notamment aux jeunes, aux enfants. Il y a une enquête de l'INSERM qui est sortie aujourd'hui qui montre que les enfants, dès l'âge de 2 ans, utilisent les écrans. Enfin, c'est un nombre d'enfants très important, notamment dans les familles nombreuses, parfois un peu défavorisées. Donc, c'est pour ça que les aspects sociaux entrent en ligne de compte. Et ces enfants qui n'ont pas connu l'avant numérique, comme les adultes d'aujourd'hui, eh bien en fait, leur mémoire est un peu menacée, enfin en tout cas, elle est malmenée. Et donc, il faut réfléchir à ces questions-là. Il faut pas, bien entendu, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'est pas souhaitable de revenir en arrière.
Mais en tout cas, il faut comprendre comment, mieux on comprend comment fonctionne notre mémoire, plus on pourra peut-être se méfier, faire attention, en tout cas, tenter de la préserver, oui, c'est ça. Et de comprendre si ce sont nos propres souvenirs, si ce sont des images, si c'est ce qu'on nous a mis dans le cerveau, si c'est nous-mêmes qui avons quoi, le temps aussi de digérer tout ça.
Oui, l'éducation a un rôle à jouer. L'éducation, l'école, les parents, nous adultes, confrontés avec les enfants, on a des messages à faire passer. Je pense qu'il faut redonner du temps, il faut redonner du temps de synthèse aux enfants. C'est très important d'être rapide, de pouvoir prendre des décisions rapidement dans certaines situations. Mais il faut aussi du temps pour que nos mémoires internes conservent la priorité par rapport aux mémoires externes.
Merci Francis Eustache de nous le rappeler dans ce formidable ouvrage collectif « La mémoire au futur » publié par les éditions du Pommier et l'Observatoire B2V des mémoires qui réunit des chercheurs de toutes disciplines travaillant sur toutes nos mémoires individuelles et collectives. Merci également à Ludovic Dickel d'avoir partagé en duplex depuis Caen sur la mémoire des sèches. Il faut de tout pour faire monde sur RFI. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI où je vous rappelle, chers amis auditeurs et internautes, que vous êtes invités à participer à notre jeu concours « Pourquoi viser la Lune ?». Tentez de gagner une lunette astronomique sur le continent, dans votre ville, dans votre village, pour partager un moment d'observation astronomique. En cette année lunaire et lunatique, vous pouvez nous demander la Lune. On se fera un plaisir de vous l'offrir. Toute l'équipe d'Autour de la question, Caroline Lachowski, Hugo Violas et Juliette Bro. Vous remercions pour votre curiosité et votre talent. Les premiers textes nous sont déjà parvenus et vous nous étonnez déjà. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure du prochain journal.